Espace, frontière de l'infini, vers laquelle voyage notre vaisseau spatial.
Vers l'infini et au-delà!
N'est pas mort ce qui a jamais d'or et au cours des siècles peut mourir même la mort. Comment raconter l'histoire de ces espèces disparues depuis des millions, voire des milliards d'années? Plus on remonte dans le temps et plus les fossiles sont rares. Ce que l'on a découvert représenterait entre 0,1 et 0,01% de la totalité des espèces vivantes. Des fossiles les plus récents de nos ancêtres hominines, aux premiers mammifères jusqu'aux tout premiers organismes monocellulaires il y a 3 milliards d'années, voyageons ensemble vers l'infiniment mort. Et pour conduire cette barque de Caron de l'évolution, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Sandrine Ladevez. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse CNRS au Centre de Recherche en Paléontologie à Paris. Et Laurent Bruxelles, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur CNRS à Toulouse, directeur de la mission française Human Origins in Botswana. Les espèces disparues depuis si longtemps doivent-elles le rester? Depuis 1993, la question est ouverte.
Une seule goutte de ton sang contient des milliards de brins d'ADN, les fondations de la vie. Une molécule d'ADN, comme moi, est un négatif pour créer une chose vivante. Et il arrive que des animaux qui ont disparu depuis des millions d'années, comme les dinosaures, laissent leur négatif pour qu'on les trouve. Il faut simplement savoir où chercher. Il y a 100 millions d'années, il y avait des moustiques comme aujourd'hui. Et comme aujourd'hui, ils se nourrissaient du sang des animaux, même des dinosaures. Parfois, après avoir piqué un dinosaure, le moustique allait se poser sur une branche d'arbre et restait collé dans la sève. Longtemps après, la résine durcit s'est fossilisée, comme un ossement de dinosaure, gardant en elle le moustique. Cette résine fossilisée, que nous appelons l'ambre, a attendu des millions d'années avec ce moustique en elle. Jusqu'à ce que viennent les savants du Jurassic Park. Grâce à des techniques sophistiquées, ils extraient le sang du moustique conservé dans l'ambre. Et bingo, voilà ADN dino. Un brin d'ADN contient 3 milliards de codes génétiques. En lisant cet écran en une seconde, à raison de 8 heures par jour de lecture, il faudrait 2 ans pour connaître la totalité d'un brin d'ADN. C'est aussi long que ça. Comme c'est très ancien, il y a plein de manques. Et c'est là que les généticiens entrent en jeu. Des superordinateurs et des séquenceurs génétiques automatiques dissocient le brin en quelques minutes. Et la reproduction en images virtuelles montre à nos généticiens les blancs dans les séquences d'ADN. On utilise toute l'ADN d'une grenouille pour combler les manques et reconstituer le code. Ouf. Et maintenant, nous pouvons créer un bébé dinosaure.
Voilà la petite vidéo explicative à l'entrée du Jurassic Park de Steven Spielberg. Nous sommes donc au cinéma en 1993. Il faut dire que c'est un vieux fantasme scientifique qui a été mis en scène dans de la fiction au cinéma. Mais il faut dire, Laurent Bruxelles, que aujourd'hui il est question, on a entendu parler à plusieurs reprises, bien de la tentative de faire naître un mammouth laineux en utilisant justement du code ADN, etc. Est-ce que ces espèces-là doivent rester éteintes ou est-ce que ce serait intéressant pour la science, si on y arrive un jour, de les ressusciter? Quelle est votre opinion à ce sujet?
Opinion juste personnelle, mais moi je trouve qu'au point de vue scientifique, ce serait intéressant de les ressusciter. On a beaucoup à apprendre de ces faunes disparues, comme d'ailleurs des végétaux disparus dont on sert énormément pour la médecine. Donc on a sous la main un potentiel de faune et de flore à ressusciter. Pourquoi s'en priver?
Sandrine Ladevez, votre point de vue là-dessus?
Alors moi, mon point de vue, c'est que c'est quand même une très belle histoire peut-être, mais complètement illusoire. Déjà, un premier point important, c'est que ces structures infimes que sont les traces d'ADN se dégradent très très rapidement à la mort de l'animal, Quand elles sont aspirées par un moustique, comme dans cet extrait de Jurassic Park, elles sont très vite aussi ingérées, digérées, dégradées. Donc c'est très très dur de retrouver des fragments d'ADN dans des restes aussi vieux. Là, c'était l'exemple des dinosaures. Alors chez les dinosaures, on a pu retrouver peut-être des traces de collagène, mais ça c'est quelque chose de très très controversé. Et puis, pour reprendre cette idée du clonage, est-ce que ce serait intéressant? Est-ce que d'un point de vue éthique, on pourrait le faire, cloner des animaux disparus? Moi, je pense tout de suite aux thylacines, aux loups de Tasmanie, puisque je travaille sur les marsupiaux, les mammifères marsupiaux. Donc le loup de Tasmanie ou tigre de Tasmanie, il a disparu dans les années 30, suite à la chasse par l'homme. Donc l'homme est complètement responsable et se sent un peu coupable de la disparition de cet animal, et essaie désormais de le cloner. Alors le cloner, ça veut dire, comme je disais, récupérer des fragments d'ADN qui sont détruits, ou en tout cas déformés, très abîmés post-mortem. Et ensuite, dans quel animal intégrer cet ADN? Donc là, il le disait pour le dinosaure, le mélanger avec de l'ADN de grenouille. Bon, là, pour les marsupiaux, il y a d'autres marsupiaux actuellement qui sont proches parents du thylacine, mais ça reste des manipulations très compliqué, et moi je suis pas sûre du bien fondé de ces techniques et de leurs résultats.
Ce qui est intéressant quand on regarde un peu finalement le rapport ou l'histoire que l'on a avec la découverte de traces fossiles ou de fossiles entiers d'animaux préhistoriques, c'est que ces fossiles-là ont été découverts bien avant que la théorie de l'évolution soit une réalité. Au début finalement ces premiers os géants, notamment de dinosaures ou de mammouths, Laurent Broussel, ça laissait la place un peu à toutes les fantasmes et à toutes les formes de mythologie.
Oui, bien sûr, parce que forcément, ça intriguait et ça rentrait pas dans les schémas conceptuels ou de réflexion de cette époque-là. Donc, il fallait bien l'expliquer. Et quand on trouve, par exemple, il y a 5000 ans, des os, les marins vont découvrir des os dans des grottes. Ils vont interpréter ça justement comme des os de géants. Ils vont trouver des crânes avec dedans un trou en plein milieu qu'ils vont prendre pour le crâne d'un cyclope. Il fallait justement faire recoller finalement les ossements que l'on trouvait à la connaissance de l'époque. Et souvent, c'était de la mythologie ou de la religion. Et c'est petit à petit, à force de trouver des fossiles, de montrer, notamment de mettre en place la question de la stratigraphie, où on va montrer que l'on a des successions de choses qui évoluent dans le temps, que l'on va commencer à mettre en place la paléontologie, et qu'on va pouvoir remettre les fossiles à cette place et oublier un petit peu la mythologie.
Mmh. Et leur faire raconter une histoire qui est l'histoire de l'évolution, parce que évidemment, quand on trouve des restes pas toujours entiers, Sandrine Ladevez, il faut les faire parler, il faut leur trouver une forme de narration.
Oui, complètement. C'est vraiment notre objectif. En fait, on est des scientifiques, certes, mais on se doit de raconter une histoire pour faire comprendre ce qu'on a devant les yeux. Et trouver des organismes qu'on a du mal à interpréter parce que ce sont des formes souvent incompréhensibles, qu'on n'a jamais vues, inattendues. Et ces formes-là, qui sont des os, elles ressemblent aussi à des cailloux, donc à des roches. C'est inclus dans la roche, donc c'est très très compliqué à interpréter quand on n'est pas à notre époque, en fait. Et grâce au siècle des Lumières, et puis ensuite, dans toute la poursuite du 19e, 20e siècle, il y a une meilleure compréhension de ces fossiles grâce à la théorie de l'évolution, vous le dites. Mais c'est vrai que c'est très compliqué de comprendre ce que sont ces organismes. Et par exemple, Pline l'Ancien, en fait, il y avait ces questions de mais qu'est-ce que c'est que cette forme triangulaire, on dirait une langue de pierre. En fait, il s'est avéré que c'était des dents de requin fossilisées. Et à plusieurs reprises dans l'histoire de l'humanité, il y a eu quand même une idée que ces objets-là devaient raconter une histoire passée, mais c'était impossible à préciser et à prouver tout simplement. Donc nous, maintenant, on essaie de faire raconter des histoires aux fossiles grâce aux techniques actuelles, qui sont des vraies prouesses technologiques, du coup, pour extirper le plus possible de ce qu'on peut trouver dans ces fossiles. Moi, je trouve que ça se rapproche un peu d'une autopsie. Alors, pour le coup, c'est une autopsie pas sur un cadavre frais, mais sur un cadavre qui a des millions et des millions d'années. Et on peut en tirer beaucoup, beaucoup de choses. Déjà, la première chose qu'on fait quand on se trouve devant un fossile, c'est qu'on va essayer, et puisque l'émission parle de la mort, on va essayer de raconter sa mort. Donc de savoir comment cet organisme est mort, quel a été son processus de fossilisation qui a conduit à sa découverte actuelle. Et ensuite, on va essayer de lui faire raconter une histoire en dehors de sa mort, donc l'histoire de sa vie, dans quel environnement il vivait, comment il se mouvait, ce qu'il mangeait, quels autres organismes il côtoyait, etc. Et ça, on a différentes techniques qui nous permettent de répondre à ces questions. je peux peut-être parler d'une technique que moi j'emploie assez fréquemment, c'est la tomographie à rayon X, donc qui nous permet d'aller à l'intérieur du fossile. C'est une technique assez simple à expliquer. On bombarde l'objet de rayons X. Les rayons X vont plus ou moins absorber la matière. Il faut savoir que l'os ou la dent, ça peut être très très dense. Et donc là, les rayons X sont moins absorbés, ce qui fait qu'on a une couleur blanche. Et les rayons X dans le vide, c'est une couleur noire. Et avec tous ces dégradés de gris, on va reconstruire l'intérieur de l'os, par exemple, et on va pouvoir reconstruire la cavité endocrânienne qui contenait le cerveau, ou la cavité dans l'oreille moyenne qui contenait l'oreille interne et donc les organes de l'audition. Et tout ça, ça va nous permettre d'aller un petit peu plus loin dans notre histoire pour raconter un peu la physiologie de l'animal, par exemple.
Est-ce qu'il est possible, Laurent Bruxelles, par exemple, que l'on fasse fausse route, que l'on se soit trompé? Il y a une image sous forme de clin d'œil ou de gag qui circule pas mal sur les réseaux sociaux et qui dit, voilà, qui présente un crâne qui est effectivement relativement monstrueux avec des dents très proéminentes et qui représente l'idée. Enfin, il y a avec une case qui dit, voilà, cette espèce interprétée par les scientifiques et on voit une sorte de monstre préhistorique de dinosaure alors qu'en fait il s'agit du crâne d'un hippopotame. Est-ce qu'il est possible qu'on se soit trompé ou qu'on ait fait de fausses interprétations sur un certain nombre de ces espèces disparues?
Ouais, c'est possible, c'est la science. La science, elle est justement, elle part sur des objectifs rationnels, des observations, dont on va essayer de sortir justement une histoire, de raconter une histoire. Et puis, au gré des découvertes, eh bien, elle va être soit remise en question, soit validée, soit un petit peu modifiée. C'est justement ça notre approche scientifique. Donc oui, ça arrive, et même au niveau des fossiles, que ce soit des fossiles récents, entre guillemets, comme les hominines, donc les ancêtres de l'homme, du genre homo, et ses premiers représentants, jusqu'aux premières formes de vie, qui sont les bactéries, autour de 3 milliards d'années, on a toujours des questions, et c'est constamment remis en question, en discussion. Il y a la problématique du berceau de l'humanité, de sa localisation, de son âge, il y a la problématique de l'apparition de la vie, mais aussi de son ancienneté. Et je pense que c'est ça qu'il faut garder à l'idée, qu'on peut se tromper, mais on ne fait qu'avancer étape par étape, et on a le droit de se tromper en science. Voilà, c'est un travail collectif, c'est ça qui est important.
Jusqu'à preuve du contraire, comme le veut l'expression Edouane Sandrine Ladevesse sur cette question.
Oui, c'est vrai que nous, pour essayer d'interpréter le fossile, on va le comparer à ce qu'on connaît. Et donc, le fossile, quand on a réussi à le positionner dans l'arbre du vivant, l'arbre phylogénétique, on peut voir quels sont ses plus proches parents actuels, les comparer donc à ses actuels, ou à d'autres fossiles qui font aussi partie de leur groupe. Et par exemple, pour répondre à votre question, au sein des dinosaures, il y a eu des interprétations qui étaient très ternes et très sobres par le passé. On les représentait comme des gros lézards géants avec une texture de peau très marron, verdâtre. Ils étaient assez massifs, etc. Et puis, en comprenant qu'en fait, les dinosaures, ce sont des reptiles, et que les oiseaux sont inclus dans ce clade-là, on s'est rendu compte que finalement, au sein du vivant, au sein des reptiles actuels, chez les lézards ou chez les oiseaux, on a des couleurs extraordinaires, on a aussi des postures qui sont beaucoup plus élancées, qui sont moins massives, et donc on a revu complètement notre conception des dinosaures, et ça je trouve que c'est une belle avancée dans notre approche de l'étude des fossiles.
Oui, et Laurent Bruxelles, vous vouliez ajouter quelque chose?
Oui, je voulais ajouter aussi, quand on travaille par exemple sur l'évolution de l'homme, lorsque les premiers fossiles justement d'Australopithèque par exemple ont été trouvés en Afrique et que l'on a commencé à imaginer que l'Afrique était le berceau de l'humanité, eh bien justement là, on a été confronté à de l'idéologie. Et cette fois-ci, pas tout le monde était prêt à accepter que ce soit l'Afrique le berceau de l'humanité. Et donc on est allé chercher beaucoup ailleurs, notamment en Asie. Et ça, c'est le côté après justement rationnel de la science et de l'approche de terrain. Eh bien, c'est qu'on a beaucoup cherché et qu'on n'en a toujours pas trouvé, en tout cas pas d'aussi ancien, et qu'au jour d'aujourd'hui, 100% des fossiles d'hominines, donc de l'homme et de ses ancêtres, sont africains. Et donc voilà, vous voyez comment la science peut parfois hésiter, chercher des voies, mais l'intérêt aussi de notre approche de terrain, c'est que ça rationalise et que ça met les choses parfois dans leur droit chemin, entre guillemets.
Oui, et puis ce qu'il faut préciser aussi, c'est que ces traces fossiles, elles sont de plus en plus éparses aux mesures que l'on remonte dans le temps. Je le disais, peut-être un petit commentaire là-dessus tout à l'heure en présentation, on estime la quantité d'espèces vivantes dont on trouve des traces fossiles entre 0,1 et 0,01, Laurent Bruxelles.
Ben oui, imaginez un animal qui meurt à la surface du sol ou dans la mer. Il faut déjà que son cadavre ne soit pas tout de suite desséché, décomposé, mangé par d'autres animaux, dispersé. Donc il faut déjà un contexte de fossilisation bien particulier, soit dans des boues profondes, soit dans des sédiments rapidement enfouis. Et ça déjà, à la surface de la Terre, on n'a pas beaucoup d'endroits, entre guillemets, où ça peut se passer. Et puis ensuite, il faut les conditions géologiques de préservation. Quand on parle de fossiles qui ont des millions, voire des milliards d'années, il a fallu que l'histoire géologique garde cet écrin pendant très longtemps, à l'abri, dans des bonnes conditions, que ce soit pas enfoui très très profond et que les roches ne soient pas métamorphisées, c'est-à-dire chauffées, transformées au point de vue chimique et physique, qu'elles ne soient pas non plus qu'on l'a érodées. Et puis ensuite, il faut un jour que ces roches-là qui contiennent ces fossiles se retrouvent au jour. Et cette fois-ci, c'est la géomorphologie, donc c'est l'érosion qui va peu à peu éroder les roches, les mettre au jour et révéler ces fossiles. Donc vous voyez la succession de choses qui se passent avec une dynamique de l'histoire géologique de la Terre, de l'évolution des paysages, des variations climatiques, qui font que mine de rien, évidemment, une grande partie de l'information soit est toujours enfouie sous nos pieds, soit complètement disparue du fait de l'érosion.
Oui, du fait de l'érosion et également du fait de la tectonique des plaques, qu'on en parlera tout à l'heure quand on va remonter dans le temps, mais finalement aujourd'hui, il reste très peu de roches qui remontent à des milliards et des milliards d'années, puisqu'elles ont toutes été renouvelées du fait de la dérive des continents et des rifts océaniques notamment.
Oui, tout à fait. Il y a très peu de roches, mais évidemment, puisque l'écorce terrestre est en mouvement perpétuel. On a eu des méga-continents qui se sont disloqués, une partie a disparu. Donc en fait, il reste que des petits îlots qu'on appelle parfois des boucliers, comme on a justement en Afrique, en Australie ou en Amérique du Sud par exemple, où là, on va avoir des très vieilles roches qui sont restées toujours plus ou moins, pas à la surface, mais en tout cas loin des zones de convergence des plaques et donc finalement qui sont toujours accessibles.
Oui. Et puis, autre chose qu'il faut préciser dans le processus de fossilisation, Sandrine Ladevez, c'est que ne se fossilise qu'une partie du corps, notamment toutes les parties molles disparaissent qui pourraient être riches en informations, et c'est là qu'il faut aussi faire beaucoup de travail de reconstruction.
Oui, exactement. Les parties molles, ce sont les parties qui disparaissent très très rapidement puisqu'elles sont très vite dégradées par les bactéries, par le milieu, par ce qu'on appelle les perturbateurs ou les dégradateurs. Et ces parties molles, elles peuvent être dans de très rares cas, mais ce sont des cas de fossilisation encore plus rares que la fossilisation elle-même, dans de très rares cas, quand l'enfouissement est immédiat, instantané, ces parties molles peuvent être conservées. Donc par exemple, lors d'éruptions volcaniques, avec la cendre volcanique qui va recouvrir les individus, là on peut avoir des restes de peau, de contenus stomacaux qui peuvent être conservés. Et en ce qui concerne les premières formes de vie, puisqu'on en parlait tout à l'heure en introduction, c'est vrai qu'on les connaît pas. On les connaît pas, il y a encore plein de choses à découvrir, mais si tant est qu'elles ont été fossilisées. Et ça, c'est vraiment un biais qu'on a, parce que quand c'est des parties molles, c'est très 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 rarement conservé.
Et pourtant, Laurent Bruxelles, on trouve, alors de façon très rare, mais on a quand même des fossiles de fougères, voire des fossiles de méduses. Comment est-ce qu'on explique ce paradoxe-là?
Oui, tout dépend le milieu, le sédiment dans lequel elles vont être imprimées. Imaginez une fougère qui vit dans un sol et puis une coulée de boue qui vient la recouvrir. Et bien finalement, lorsque la boue va sécher, va durcir avant même que la plante finalement ne pourrisse, et donc il va rester un vide à l'intérieur qui ensuite va être rempli par quelque chose, donc ça va devenir un fossile, mais ça va garder tout à fait la texture. Donc ça marche pour les plantes, ça marche aussi pour des empreintes. On a quand même des empreintes de pas fossilisées, que ce soit dans des grottes ou, par exemple, dans le Grand Rift Est-Africain, on a des animaux et des australopithèques qui fuyaient une éruption. Et on a cet instantané de course, de fuite, qui est fossilisé effectivement par des retombées volcaniques, comme c'était précisé. On a aussi, pour les tissus mous, un cas assez exceptionnel en Afrique du Sud, dans une grotte en Afrique du Sud, c'est le fossile, l'australopithèque Littlefoot, dont on sait qu'il est tombé dans un gouffre il y a 3,7 millions d'années. Donc on a beaucoup travaillé sur la datation, puis ensuite on a essayé de comprendre un peu ce qui y est arrivé. Et en fait, on est assez profond sous terre, à plus de 40 mètres, et cet australopithèque en fait a chuté. Il a roulé sur un talus et on le retrouve aujourd'hui. Le corps est toujours en connexion, si vous voulez. Donc on a encore la main complète, le bras, le tronc, les jambes, tel qu'il est tombé il y a 3,7 millions d'années. Donc on a déjà un instantané de la mort de ce pauvre australopithèque. Elle a les jambes qui sont croisées, un bras en l'air, un bras tourné autour du corps. Ça, c'est la posture typique d'un corps qui a roulé justement dans un talus. Donc, vous voyez, on a quasiment la scène de crime en l'état. Et puis, pour faire le lien avec les tissus mous, lorsqu'on fouillait justement cet australopithèque, il y avait toujours une petite couche blanche de calcite entre les os et le sédiment. On s'est longtemps demandé ce que c'était, jusqu'au jour où des lapins sont tombés dans le gouffre, un peu comme l'a fait Littlefoot. Ils sont morts et on a décidé de les laisser pour voir un petit peu comment ça a évolué. Voilà comment ils allaient finalement se décomposer ou pas. Et en fait, ils se sont momifiés. Ils se sont complètement desséchés. La peau est venue se coller contre les os. Et on a compris qu'en fait, c'est ça qui s'était passé pour Littlefoot, c'est que le petit liseré blanc qu'on voyait, eh bien, c'était finalement les restes de la peau qui aujourd'hui ont disparu et qui ont permis de maintenir le fossile tout assemblé jusqu'à ce que de nouveaux sédiments le recouvrent. Peut-être plusieurs dizaines ou centaines d'années après.
Mmh. Oui, vous parliez de médecine légale, c'est quasiment de l'enquête policière à ce niveau-là, Sandrine Deves.
Complètement, c'est vraiment une enquête policière qu'on mène pour essayer de découvrir plein de choses.
Les raisons de la mort.
Oui, les raisons de la mort. Et la momification, c'est un exemple vraiment intéressant parce qu'on a aussi des restes de vertébrés momifiés qui datent de à peu près une trentaine de millions d'années dans le Quercy, en France, dans les phosphatières du Quercy. Et ça, c'est vraiment une fossilisation exceptionnelle. On a accès à plein de choses de l'anatomie des tissus mous des organismes. Et notre enquête policière, elle peut aussi mener à plein de choses différentes. Donc, déterminer les conditions de mort et d'enfouissement. Par exemple, je travaille sur des marsupiaux d'Amérique du Sud qui existaient tout juste après la crise crétacé-tertiaire, qui a vu l'extinction des dinosaures non aviens. Et on a eu la chance de découvrir des squelettes entiers enchevêtrés les uns sur les autres. Des squelettes de petits marsupiaux, ça ressemble à des petites musaraignes actuelles, mais c'est un autre groupe de mammifères. Et donc ces squelettes sont les uns sur les autres et sont trouvés dans des blocs de grès assez petits, qui font une dizaine, une vingtaine de centimètres de diamètre. Et donc ça montre qu'il y a eu un enfouissement très rapide, puisque les corps sont très peu disloqués, il n'y a pas eu de transport de matériaux. Et donc on pense, d'après aussi ce qu'on a découvert sur la faune qui environnent ces marsupiaux, que ce soit les grenouilles, les serpents, les crocodiles, que ce soit la flore, on a pu comprendre que c'était un milieu lagunaire, ou en tout cas il y avait une rivière, ses méandres et des terriers. Et on pense que ces petits marsupiaux vivaient en population, ce qui est complètement inattendu, connaissant les marsupiaux actuels, les opossums actuels d'Amérique du Sud. Et puis, donc, ils vivaient en population, ils ont été enfouis d'un coup dans un tarier. Et donc, on a une population devant nous avec des adultes, des femelles et des mâles, et des jeunes, différents âges. Donc ça, c'est génial, et on peut vraiment raconter l'histoire de cette population.
Et pour raconter cette histoire, évidemment, l'une des informations, et Laurent Bruxelles en parlait à l'instant, les plus importantes, peut-être la première à rechercher, c'est celle de la datation. Et cette histoire, eh bien, c'est Henri de Lemelay qui vous la raconte.
Il est très important de pouvoir dater un site préhistorique. Ce site, la Conaragua-Totavel, a été daté par différentes méthodes, et au bout de nombreuses années d'analyse et de recherche, entre 550 000 et 400 000 ans. Pour le dater, nous avons plusieurs méthodes. D'abord, nous avons l'étude biologique des espèces. Les espèces animales évoluent. Certaines espèces évoluent plus lentement, d'autres évoluent plus rapidement. Et parmi les espèces qui évoluent plus rapidement, on peut citer les rongeurs. D'autres évoluent plus lentement, comme les éléphants qui se reproduisent plus lentement. D'autre part, certaines espèces sont trouvées en grand nombre, comme les rongeurs. On peut faire des statistiques avec de nombreuses dents de rongeurs. Et ainsi, on arrive, en tenant compte de l'évolution de chaque espèce, à élaborer un cadre chronologique relatif de l'ensemble des sites qui ont été découverts. Ainsi, on peut savoir que la cône de l'Arago à Totavel est plus récente que certains sites d'Europe, par exemple le site de Moer en Allemagne, qui a été daté d'environ 600 000 ans, et où a été trouvée une mandibule humaine encore plus vieille que celle de l'Arago. Par contre, on peut dire que le site de l'Arago est plus récent que le site de Steinheim en Allemagne également, qui a livré un crâne, et qui, lui, est plus récent que l'homme de l'Arago. Ceci en tenant compte simplement de l'évolution biologique des espèces. On sait que telle espèce est plus archaïque, que dans une même espèce, tel groupe d'individus est plus ancien ou plus récent que dans tel autre site. Petit à petit, s'élabore, en comparant toutes ces données, un cadre chronologique de tous les sites paléolithiques et tous les sites paléontologiques découverts en Europe occidentale.
Voilà Henri de Lemelay dans les chemins de la connaissance sur France Culture en 1980. Depuis 1980, Sandrine Ladevez, les techniques de datation se sont largement diversifiées et permettent aujourd'hui d'arriver tout de même à des marges d'erreur relativement faibles.
Oui, alors juste pour revenir sur ce que disait Henri de Lemelay, voilà c'est ça, c'est que faut bien comprendre que la roche sédimentaire c'est une accumulation de couches de sédiments et qui forment des strates, ce qu'on appelle des strates, ces couches, et que ça se dépose les unes sur les autres, donc la plus basse et la plus ancienne, la plus haute et la plus récente, et que dans une même couche, a priori, on a le même âge partout. Donc ça, c'est une première chose. Et là, ce dont il parlait, c'était la datation relative, puisque dans une couche, si on trouve des fossiles qu'on connaît bien, parce que c'est ce qu'on appelle des marqueurs biostratigraphiques, c'est-à-dire c'est des fossiles qui ont eu une durée d'existence assez courte, mais qu'on retrouve dans plein de couches géologiques. Donc ça, ça nous permet de donner un âge relatif par comparaison. Et puis aussi, on peut dater relativement par rapport aux couches inférieures et supérieures. Donc ça, c'est une première technique. On a aussi des datations absolues, donc, comme les datations avec les isotopes, donc c'est de la radiochronologie, c'est-à-dire qu'un élément radioactif va se dégrader. Donc on connaît très bien la période de radioactivité de cet élément, qui va se dégrader au cours du temps, et cette période est plus ou moins longue. Par exemple, le carbone 14, qui est très connu, en fait, la dégradation des éléments radioactifs du carbone 14, elle est assez rapide. Ça se fait sur une période qui va jusqu'à une dizaine de milliers d'années. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est la demi-vie de ces éléments radioactifs, de cet atome de carbone, c'est-à-dire à quel moment on a la moitié des éléments radioactifs qui se sont désintégrés. Et donc, on a des courbes qui représentent ces périodes de radioactivité avec cette désintégration. Et on peut calquer, du coup, l'âge de notre roche en prélevant les minéraux radioactifs et en regardant la présence d'éléments radioactifs dans cette couche. Donc ça, c'est une première méthode de datation absolue qui peut être utilisée. Alors, carbone 14 sur des choses très récentes qui vont dans des dizaines de milliers d'années. Et quand on va plus loin dans le temps, il y a d'autres atomes, d'autres couples qu'on peut considérer. Et puis, pour parler de techniques aussi nouvelles qui sont super intéressantes, il y a l'intelligence artificielle qui est utilisée maintenant. Ça, c'est pour des datations relatives. Donc, on peut regarder dans nos couches sédimentaires la quantité de nano ou microfossiles qui sont présents. Ça, c'est justement des marqueurs biostratigraphiques qui sont super intéressants, comme le pollen, par exemple. Donc, on a maintenant des programmes informatiques qui permettent de reconnaître la morphologie de ces marqueurs, de ces nanofossiles et de ces microfossiles, de les identifier et nous dire, ben voilà, il y a une proportion de temps de tel pollen, tant de tel pollen et de tant de tel pollen. Donc ça correspond à telle époque.
Eh bien, nous allons remonter justement le fil du registre fossile et essayer de comprendre jusqu'où l'on peut remonter. Est-ce qu'on peut remonter jusqu'aux origines de la vie ? Réponse dans quelques secondes. Oh, for a soul, you lie there. Pickle yourself with the liquor you drink. You learn to walk, but now you're when it shrinks. Stand tall, my love, I call as you sink. Oh, for so turn your flesh to stone. These bones in a body that will not grow. Fossils de Peggy Sue dans Infiniment. Nous explorons l'infiniment mort et nous remontons le registre fossile en compagnie de Sandrine Ladevèze, qui est chercheuse CNRS au Centre de Recherche en Paléontologie à Paris, et Laurent Bruxelles, qui est chercheur CNRS à Toulouse et directeur de la mission française Human Origins in Botswana. Laurent Bruxelles, le fossile le plus récent, le plus jeune, il est daté de quelle époque ?
Alors, je ne peux pas vous dire de quand il est daté, mais je peux vous dire que le processus de fossilisation peut être rapide. Quand on parle d'un fossile, en fait, c'est qu'on a un reste, qu'il soit animal ou végétal, dont finalement le matériau initial a déjà été au moins en partie transformé. Donc on n'est plus tout à fait dans de l'os, dans du bois ou dans de la feuille. Il a déjà été petit à petit, molécule par molécule, remplacé par autre chose. Et vous avez par exemple des fossiles, des fois, qui sont holocènes, c'est-à-dire qui ont à peine quelques milliers d'années, voire quelques siècles, à la sortie de sources pétrifiantes, par exemple, dans ce qu'on appelle des travertins. Donc ça peut être très très récent, et je veux dire, en histoire de quelques dizaines, voire quelques centaines d'années, on peut faire transformer un reste organique en un reste minéral, au moins en partie, et donc en faire un fossile.
Si on remonte donc la frise chronologique, pendant assez longtemps, le fossile hominine le plus ancien est la très célèbre Lucie, ou en tout cas l'une des plus célèbres, qui a été datée à 3,18 millions d'années, Laurent Bruxelles. Mais Lucie a été détrônée en 2001 par Toumaï, qui est estimé à 7 millions d'années, malgré un débat qui n'a pas été tout à fait tranché encore et qui a ressurgi il y a peu de temps sur la bipédie ou non de Toumaï. Ça voudrait dire que le plus vieux ancêtre commun de la lignée hominine se situe en tout cas dans cette tranche d'âge.
Oui, on sait globalement que ça se situe vers 7-8 millions d'années, donc on peut laisser Toumaï dans la course, il n'y a aucun souci. Ensuite, effectivement, on a très peu de fossiles puisqu'on passe à Aurorine et puis après on passe jusqu'à la lignée des Australopithèques et puis jusqu'à nous. Donc il y a évidemment, c'est comme en géologie pour l'ensemble des fossiles, on a peu de fossiles anciens, y compris pour les hominines. Toumaï, pour l'instant, est quasiment unique. Et puis plus on va vers nous et plus on a des fossiles nombreux et bien représentés. Et globalement, bon, Toumaï est un petit peu tout seul au Tchad. Par contre, on a un registre de fossiles très complet et plus ancien même que Lucie, hein, qui sont justement dans le Grand Rift Est africain. Alors ça, c'est intéressant pour le contexte de fossilisation, puisqu'on a une immense déchirure de l'écorce terrestre à l'est de l'Afrique, qui pendant des millions d'années, le fond va peu à peu s'abaisser et les sédiments vont s'accumuler les uns sur les autres à l'image d'un millefeuille. Et donc on a des fossiles successifs qui vont s'enregistrer les uns au-dessus des autres, et donc on a une longue histoire qui est stocké dans ce grand rift est-africain. En plus, on a la chance, il y a des retombées volcaniques régulières, et comme le disait Sandrine tout à l'heure, on a des moyens de datation très faciles qui permettent de dater simplement ces fossiles.
Sandrine Ladevez, pour la lignée humaine, en tout cas, plus on recule dans le temps, moins on a de fossiles. Hein, on a vu Lucie, Aurine, Toumaï. Comment est-ce qu'on explique qu'on a du mal à trouver des fossiles aussi anciens, en tout cas pour les lignées hominines?
Alors pour les lignées hominines, je pense que c'est un problème de contexte de fossilisation, que s'ils vivaient dans des milieux boisés, la fossilisation est très compliquée puisqu'on a un enfouissement qui est presque impossible avec une compaction du sédiment et puis un ruissellement d'eau qui se trouve très très compliqué. Donc c'est pas un milieu propice à la fossilisation. Je pense qu'on l'explique par cela, parce que quand on regarde des mammifères qui sont bien plus anciens, je vous parlais de mes petits marsupiaux d'Amérique du Sud, mais il y en a plein d'autres, là on a une richesse en fossiles qui est quand même assez importante. Donc ça dépend vraiment du contexte de vie de l'animal, de son environnement. Est-ce que l'environnement était propice ou pas à la fossilisation? En fait, la plupart du temps, c'est pas propice du tout.
Laurent Roussel.
Oui, alors dans le Grand Rift Est africain, effectivement, les fossiles étaient au jour, donc ils étaient remaniés par les rivières, mangés par les animaux, charognés. Donc en fait, on trouve très très peu d'informations. En revanche, en Afrique australe, par exemple, là, on est dans le contexte de grottes. Et là, ça change un petit peu tout, parce que les fossiles qui tombaient dans les grottes n'étaient plus accessibles, et surtout ils étaient protégés, fossilisés assez rapidement, inaccessibles par les charognards. Et puis en plus, on avait souvent, c'était des repères de carnivores qui allaient chasser autour, ils chassaient y compris les australopithèques. À l'époque, on était loin d'être au sommet de la chaîne alimentaire. Et donc on retrouve une concentration d'hominines aussi parce qu'il y avait beaucoup d'animaux qui les chassaient et qui les consommaient. Et là, on s'aperçoit que par contre, il y avait quand même pas mal de monde hein, autour finalement. Donc finalement, ça montre que quand on a le bon piège qui a enregistré la bonne information, on s'aperçoit qu'on a une population qui était finalement assez importante. Et après, on va faire des centaines, voire des milliers de kilomètres, c'est-à-dire qu'entre les grottes d'Afrique du Sud et le Grand Rift Est africain, il y a 4000 kilomètres sans plus aucun fossile, alors qu'on sait que forcément il circulait entre l'un et l'autre.
Oui. Si vous le disiez, Sandrine Ladevez, si on remonte encore l'échelle du temps, les mammifères et les dinosaures, parce que les deux apparaissent d'ailleurs, contrairement à ce qu'on s'imagine, à peu près en même temps, là, le registre fossile est assez généreux, jusqu'à 200-250 millions d'années.
Oui, c'est ça. Alors, les premiers dinosaures apparaissent à peu près autour de 250 millions d'années, dans une époque qu'on appelle le Trias. Les premiers mammifères, à peu près contemporains, on les date à peu près de 230 millions d'années. Alors, quand on parle de mammifères, c'est un terme assez large. En fait, ces premiers mammifères n'ont pas tous les attributs des mammifères tels qu'on les définit actuellement, c'est-à-dire la lactation, le remplacement dentaire unique, et puis, bon ça c'est difficile à voir chez un fossile, poils et la lactation dont je parlais tout à l'heure. Des restes de poils, ça peut se trouver néanmoins quand la fossilisation est exceptionnelle. Donc ces premiers fossiles de mammifères sens large, qu'on appelle les mammaliaformes, ces morganicodons par exemple, qui était un tout petit mammifère de la taille d'une musaraigne, et c'est vrai qu'on a un registre fossile, en tout cas pendant toute l'ère des dinosaures, l'ère mésozoïque, qui est assez généreux, comme vous le disiez. Mmh. Et puis, contrairement à ce qu'on pensait, ces premiers mammifères, c'est pas tous des petites souris insectivores. On a une diversité de formes et d'écologies très, très surprenantes, jusqu'à des mammifères assez gros, qui étaient carnivores, qui étaient les prédateurs de certains petits dinosaures, des mammifères volants, planeurs, et puis des mammifères souterrains. Il y a vraiment une énorme diversité qu'on peut reconstruire grâce aux fossiles et grâce à l'enquête qu'on mène, comme on en parlait tout à l'heure.
Laurent Broussel, justement, sur cette enquête sur les origines de la vie, elle reste relativement simple tant qu'on est dans le domaine des vertébrés, c'est-à-dire que tout ce chemin évolutif qui va bien de l'apparition des vertébrés marins à la sortie des eaux, on a une fourchette assez large hein, entre c'est le Dévonien, on est entre 420 et 360 millions d'années, mais là aussi le registre fossile est assez loquace, si on peut le dire comme ça.
Oui, c'est-à-dire qu'on a encore la surface de la Terre, beaucoup de terrains, disons, de cette époque. Et puis, ces terrains ont souvent été enfouis, hein, avec une histoire géologique assez compliquée. Donc voilà, ils ont été protégés de l'érosion. Et puis, les événements tectoniques, les mouvements de l'écorce terrestre ont fait qu'aujourd'hui, eh bien, ils sont remis au jour. Hein, voilà, quand on a des plaques de l'écorce terrestre qui se rencontrent, qui se télescopent, on va faire des chaînes de montagnes, hein, les Pyrénées, les Alpes, l'Himalaya. Eh bien ça va faire ressortir ces terrains et les remettre à l'érosion. Et donc finalement, on a quand même, dans toutes ces zones-là, dans pas mal de régions dans le monde, des roches, beaucoup d'affleurements de roches de cette période-là, qui à la fois sont riches en fossiles et finalement sont accessibles maintenant.
D'ailleurs, alors peut-être aussi un mot rapide, Laurent Broussel, parce que on a aussi un témoignage de ce qu'on appelle l'explosion cambrienne, c'est-à-dire d'un moment où on se rend compte qu'il y a une énorme diversification dans le vivant. On est aux alentours de 540 millions d'années, et c'est avant ça que ça commence finalement à devenir de plus en plus difficile.
Oui, à ce moment-là, en tout cas, c'est sûr qu'il y a une quantité de faune, de flore. Assez impressionnante qu'on connaît, avec des grands bassins sédimentaires qui vont stocker en plus ces faunes-là et les préserver jusqu'à aujourd'hui. Là, on a encore quelque chose qui est accessible, mais là aussi, il faut dire qu'il y a un contexte géologique à ce moment-là qui a permis de piéger ceci. C'est important, finalement, si on n'a pas le piège, le réceptacle qui va garder l'information à ce moment-là, on peut avoir toute la richesse que l'on veut, on ne pourra pas la lire. À ce moment-là, on a à la fois effectivement une explosion de la biodiversité, des êtres vivants à la surface de la Terre, mais en même temps, une géologie qui fait des grands bassins qui vont permettre de les stocker, de les préserver, de les fossiliser jusqu'à maintenant.
Sans rien de la devise.
Oui, et puis en plus du contexte géologique, cette période-là, l'explosion cambrienne, c'est aussi l'apparition des premiers organismes à carapace, comme les arthropodes. Donc ça permet à l'animal de se fossiliser plus facilement qu'un animal au corps mou. On a aussi l'apparition des premiers chordés, donc ces petits animaux avec une structure cartilagineuse qui va se transformer au cours du temps et puis donner quelque chose de plus osseux. Et donc au sein des chordés, on aura dans la période qui suit à l'ordovicien les premiers vertébrés. Donc voilà, c'est la raison aussi pour laquelle on a beaucoup, beaucoup de données sur cette explosion cambrienne, parce qu'on avait des organismes qui se fossilisaient un peu plus facilement que des organismes à corps mou. Et puis on parlait tout à l'heure d'erreurs dans notre interprétation de fossiles. À cette époque, on a un fossile très difficile à comprendre, qu'on a appelé Hallucigenia, parce qu'il avait une forme complètement hallucinante. C'est un organisme assez mou, avec des tentacules et des spicules, et on ne savait pas où était sa tête, il n'y avait pas de marqueur de tête, on n'avait pas de traces, et donc on ne savait pas dans quel sens le mettre, si les tentacules étaient des tentacules pour se déplacer, ou l'inverse, si les spicules étaient des spicules pour se déplacer. Et cette histoire-là, ça a été résolu il n'y a pas très longtemps, parce qu'on a pu découvrir, avec des observations plus fines au microscope, où se trouvait la tête. On a vu qu'elle était armée de petites dents minuscules. On a pu aussi, grâce à des analyses plus poussées, pour le repositionner dans l'arbre du vivant, voir que c'était un annélide, donc la famille des vers. Et voilà, donc on a réussi à comprendre cet animal bizarre qui était Hallucigenia, de la faune de Burgès au Cambrien.
Et alors, on arrive à la toute fin, donc on va remonter aux origines, aux plus anciens fossiles trouvés, de ces 3,4 milliards d'années. Expliquez-moi rapidement, Laurent Broussel, comment est-ce qu'on peut trouver des fossiles d'organismes monocellulaires ou de ces toutes premières traces de vie? Comment est-ce qu'on arrive à retrouver ça dans de la roche, quoi?
Alors, comment on arrive à les trouver? Eh bien, déjà, en allant cibler, évidemment, des terrains qui ont cet âge-là. Il n'y en a pas beaucoup à la surface de la Terre. Hein. Donc voilà, on sait qu'au Groenland, au Gabon, en Australie ou en Afrique du Sud, on a des roches qui ont plusieurs milliards d'années. Et donc, il faut déjà aller sur ces terrains-là et ensuite essayer de faire la part. Et c'est ça, et c'est pour ça que vous le savez, il y a toujours des controverses quand même pour des dates aussi anciennes pour des fossiles, de savoir si on a affaire à des phénomènes purement géologiques, géochimiques, ou si on a vraiment de la biologie associée. Un fait avéré, c'est sûr, ce sont par exemple les stromatolites. Les stromatolites où, à partir de 2,7 milliards d'années, ils sont sur Terre, là en Afrique du Sud, justement, la roche dans laquelle les grottes sont creusées, la grotte qui contient Littlefoot, elle est creusée dans des dolomies, donc ce sont des roches qui sont posées au fond de la mer, une mer peu profonde, chaude, dans laquelle il y avait des stromatolites. Ce sont des roches, on appelle ça des boulets algaires, donc ce sont des bactéries, des cyanophycées, qui vont fixer notamment le CO2 de l'atmosphère ou de l'eau et en faire une roche. Donc ça fait des espèces soit de tapis, de petites roches laminées toutes plates, soit parfois des espèces de choux-fleurs, des bourrelets, des colonnes. Ça a plusieurs structures et c'est toujours vivant. Hein. On a encore aujourd'hui, par exemple au large de l'Australie, des stromatolites. Donc vous voyez que cette bactérie, eh bien, elle a survécu à tout ce qui s'est passé à l'histoire de la Terre sur plusieurs milliards d'années. Et dans cette région de l'Afrique du Sud, c'est fantastique parce que la roche n'a quasiment pas changé. On voit les stromatolites encore visibles à l'air libre, maintenant morts évidemment, fossilisés. Mais on a même les petites vaguelettes au fond de l'eau. Vous savez, quand on va à la plage, on sent sous nos pieds ces petites vaguelettes. Eh bien, on a encore les ondulations liées à la houle de cette mer il y a 2,6 milliards d'années.
Est-ce que, pour conclure, Sandrine Adevez, on peut imaginer un jour, par chance, peut-être coup de bol, tomber sur les toutes premières traces de vie de l'histoire de la Terre qui seraient fossilisées, les toutes premières cellules?
Alors les toutes premières, on ne saura peut-être pas que c'était les toutes toutes premières, mais en tout cas, il y a déjà eu une avancée assez récente, puisque, bon là, on parlait des stromatolites qui sont très anciennes, hein, 3,5 milliards d'années, et puis qui ont permis une grande prolifération de la vie, puisque, comme le disait Laurent, elles pratiquent la photosynthèse, et ça a permis une grande oxydation, avec un relargage de dioxygène et d'ozone aussi, ce qui a pu constituer l'atmosphère. Mais avant ça, les premières formes de vie, ces organismes unicellulaires, ils sont très très difficiles à retrouver. Je crois qu'on a pu faire reculer leur apparition à 3,8-4 milliards d'années, mais voilà, comme le disait aussi Laurent tout à l'heure, c'est difficile à trouver parce que souvent c'est sous forme de enfin c'est contenu dans des petits filaments, c'est difficile à savoir si c'est vraiment un résidu biologique ou pas, et bon, moi c'est pas du tout ma discipline, mais je trouve déjà qu'avoir pu les identifier à 3,8 milliards d'années, c'est-à-dire moins d'un milliard d'années après la formation de la Terre, on est déjà très très loin et peut-être qu'on trouvera pas plus loin que ça.
Il est temps de revenir doucement à la vie. Merci beaucoup Sandrine Ladevez. Merci Laurent Broussel d'être venu nous parler de ces traces fossiles si lointaines. Infiniment, c'est Mariam Ibrahim, Alexandre Morales, Olivier Vétard et Audrey Guélil. Voilà, c'était le tout dernier épisode d'Infiniment. Vous pouvez retrouver les deux saisons sur l'application Radio France ainsi que sur le site franceculture.fr. Je vous emmène encore tous les matins jusqu'à la fin du mois d'août à la découverte des télescopes géants du Chili pour une promenade dans le ciel nocturne et la profondeur de l'univers. C'est donc chaque matin dans les matins d'été à 7h20. Et puis pour le reste, je vous souhaite un magnifique été sur France Culture et je vous dis à bientôt, ailleurs et au-delà.